Tout cela constitue, pour la période 10-12e siècle, une deuxième vague d'implantation monastique. Ce que je vais tenter de vous évoquer ce soir, c'est la troisième vague, c'est le 13e siècle, principalement, c'est le début des ordres urbains, cette fois-ci, que sont les ordres mendiants. Des personnages qui sont d'ailleurs très curieux dans la famille monastique, puisque, après tout, ces régulières-là, ce sont des frères qui vivent dans le siècle. C'est quelque chose d'assez original, quand même, qui mérite d'être regardé d'assez près. Et d'abord, que sont en général les ordres mendiants? Ils sont partis de la nécessité, tout simplement, de la lutte contre les hérésies. Le XIIe siècle a vu proliférer quantité de mouvements plus ou moins connus, du type de la Pataria en Italie du Nord, le catharisme dans les terres des Trencavels, c'est-à-dire les vicomtés de Béziers, Carcassonne et Albi notamment, mais le comté de Foix en plus, et ou encore le valdisme à Lyon et d'autres mouvements encore. Tous ces mouvements accusent l'Église de médiocrité dans l'enseignement, de richesse excessive, parfois sur fond de simonie, d'orgueil, et propose d'autres solutions hors de l'Église au nom de la pauvreté évangélique et parfois sur fond d'anticléricalisme. Le mouvement hérétique, quelle que soit son origine, est particulièrement fort là où les évêques sont d'abord des princes, à Lyon, ou plus encore, là où ils n'ont pas peu suivi la réforme dite grégorienne, comme en Languedoc. Et puis, bien entendu, il faut mettre en prime l'impact de la montée des relations avec l'Orient, bien sûr, pendant le XIIe siècle. Les hérésies qui sont développées au XIIe siècle sont pour la plupart urbaines, même si des seigneurs et des paysans ont suivi allègrement, comme on le sait notamment pour le catharisme. Ces ordres mendiants ne sont pas nés uniquement de la nécessité de la lutte contre les hérésies, ils sont nés aussi de l'inefficacité de l'inquisition épiscopale. Le concile de Vérone de 1184 a bien exigé que toute la population dénonce les hérétiques à l'évêque et que les seigneurs laïcs soutiennent les prélats sous peine d'excommunication. Ça n'a pas eu beaucoup d'effet. D'où, en 1209, l'instauration d'une commission paroissiale pour dénoncer les hérétiques, puis des mesures plus radicales, notamment en 1220, l'empereur Frédéric II annonçant que tout hérétique jugé par l'évêque serait exécuté par le représentant de l'empereur. Enfin, le concile de Toulouse de 1229 a fixé des sanctions contre les hérétiques. Les repentants perdaient leurs biens et leurs capacités civiles. Les rétractants, par simple peur de la mort, étaient emprisonnés. Et les endurcis et les relapses prenaient la direction du bûcher. Fallait-il aller encore plus loin? Il y a eu des papes pour le penser. Grégoire IX, pour sa part, a estimé qu'il fallait donner plus de mordant à l'Inquisition en confiant cette mission aux Dominicains en 1232. Et Innocent IV a encore renchéri en autorisant l'emploi de la torture en 1252. C'est là la deuxième phase de l'Inquisition qui commençait, l'Inquisition dite monastique, et qui a donc suivi l'Inquisition épiscopale et précédé l'Inquisition d'État, ce qui est encore autre chose. Je le reprécise au passage parce qu'un certain Victor Hugo a flanqué une telle confusion dans les esprits en matière d'Inquisition qu'il faut quand même savoir quoi et quoi. Ceci étant dit, l'opinion des princes et de leurs dépendants au Moyen-Âge fut bien en général d'accepter en principe l'Inquisition, procédure d'enquête qui permettait de faire cesser ce scandale de la déchirure dans la société chrétienne. Mais ils n'admettaient pas pour autant les excès de l'Inquisition, ce qui est autre chose. Mais il y a eu aussi beaucoup de gens pour penser qu'il existait peut-être une meilleure méthode. Et ceci nous amène déjà à une voie qui a préparé, en somme, la naissance des mendiants, c'est-à-dire la recherche de la réconciliation avec l'Église. À vrai dire, ce ne sont pas les dominicains ou les franciscains qui ont montré l'exemple, ce sont, c'est beaucoup moins connu, les humiliés. Les humiliés, ce sont des personnes qui ont été réconciliées avec l'Église comme frères, je cite, comme frères servant Dieu dans l'humilité. C'est-à-dire, pouvant être indifféremment des religieux, des laïcs continents, des laïcs mariés. Et ça a fini par former une véritable catégorie, littéralement officialisée par Innocent III. C'était en fait un peu le point de départ. Derrière s'est profilé, et je le détaillerai, les deux ordres, dominicains et franciscains, qui ont été essentiels tant pour leur rôle médiéval que aussi post-médiéval, mais qui n'ont pas été seuls. Je signale qu'il y a eu également les carmes, c'est-à-dire ces ermites du Mont Carmel organisées depuis la fin du XIIe siècle et qui sont devenues une communauté approuvée par le pape en 1224 et qui ont été amenées, évidemment, vu les vicissitudes bien connues de la Terre Sainte, à émigrer en Occident où ils se sont trouvés finalement assimilés aux ordres mendiants. Et ils ont connu, pour leur part, un essor rapide aussi, avec les difficultés que l'on trouvera souvent dans les ordres mendiants, c'est-à-dire conflits entre observants et spirituels. Je signale d'ailleurs au passage que la branche des carmélites est beaucoup plus tardive, elle est de 1451 seulement. Ce qui est assez curieux parce que d'habitude, les ordres mendiants vont plutôt commencer par les branches féminines que masculines. Là, les carmes, c'est l'inverse. Et donc, chez les carmes, on retrouve abstinence perpétuelle, silence, pauvreté, un certain nombre de traits que l'on va retrouver dans d'autres ordres. Il y a également les ermites de Saint-Augustin, qu'il ne faut pas, de 1256, qu'il ne faut pas confondre avec les chanoines réguliers de Saint-Augustin, qui sont tout autre chose, bien antérieurs. Et qui sont, eux, ces ermites des ordres mendiants, font partie des ordres mendiants, et d'autres encore, les Célestins, par exemple, les ermites des Abruzzes, qui sont groupés en ordre, et dont le fondateur est devenu le pape Célestin V en 1295, qui a beaucoup favorisé, d'ailleurs, l'élan de l'ordre. Et puis, d'autres encore, bien plus modestes, je ne veux pas vous assommer d'une nomenclature. En commun, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans cette gestation de ces ordres, tous ces ordres ont le souci de la règle, bien sûr, mais aussi le souci de l'action en ville, l'esprit de pauvreté, l'esprit de pénitence. La population a très vite apprécié leur remarquable talent de confesseur et de prédicateur qui firent... Excusez-moi, je fais comme je peux, qui firent beaucoup pour faire reculer l'hérésie, tout autant d'ailleurs que l'aide apportée aux pauvres. Il est vrai qu'il y avait quand même eu un passif dans cette vision d'ensemble qu'on peut avoir des ordres mendiants. Ils se sont facilement imposés dans les paroisses en récupérant souvent les offrandes, les dîmes, les droits de sépulture. Et quant aux dominicains, plus spécialement, ils ont eu tendance à pousser au durcissement de l'Inquisition et certains sont allés trop loin. Il y a quelques cas célèbres, justement parce qu'ils sont exceptionnels. Et Robert le Bougre en Champagne, autour de 1239, qui a été un grand spécialiste des bûchers. Les dominicains de Toulouse, à peu près au même moment, qui pratiquent, eux, des bûchers de cadavres d'hérétiques, qu'ils font exhumer vers 1241 ou encore Pierre de Vérone à Milan vers 1245. Et il y a quelques personnages qui vont beaucoup trop loin dans leur action et qui devaient d'ailleurs se trouver sanctionnés d'une manière ou d'une autre, soit par les populations locales qui se faisaient justice elles-mêmes, soit par la papauté lorsqu'on leur laissait le temps. Il faut aussi remarquer que, parce qu'il faut être honnête dans une présentation, que les assassinats d'inquisiteurs n'ont pas été rares. Et que ces assassinats par les hérétiques en Italie du Nord et en France du Sud expliquent, sans les excuser pour autant, aussi les excès de zèle. Des excès de zèle, donc, que le pape, surtout Grégoire IX, a sanctionné par des suspensions de pouvoir et même des incarcérations à vie. Il ne faut pas, dans ce domaine-là, je le précise tout de suite et pour prévenir les questions, donner automatiquement dans le romantisme noir facile tel qu'il s'est développé depuis le siècle dernier. L'inquisition ne fut pas systématique, elle n'a jamais été. Elle n'a pas été systématiquement portée au bûcher, comme on l'a dit, elle a été encore moins un phénomène général. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu d'inquisition en Angleterre, qu'il n'y en a pas eu davantage, à peine plus, en Espagne avant l'unification de l'Espagne, et que son rôle a été pour le moins très inégal en Allemagne, dans la phase monastique là, du XIIIe siècle. Il faut donc, attention, une fois de plus, ne pas mélanger les formes de l'inquisition de l'Église avec l'inquisition de l'État, de type fin du Moyen-Âge, dont l'Espagne est restée historiquement le représentant le plus assidu et de plus longue durée à partir de la fin du XVe siècle. Ceci étant, je souhaiterais centrer mon propos naturellement sur les deux ordres mendiants principaux. En commençant par ordre chronologique, comme il est normal en histoire, par les frères prêcheurs, c'est leur titre officiel au Moyen-Âge, ou les Jacobins, c'est le surnom médiéval, ou les Dominicains, titre, appellation qui leur est restée par la suite. Au départ, bien sûr, Saint-Dominique. Saint-Dominique, tout le monde sait que c'est un Castillan qui est né aux abords de Burgos vers 1170, qui est devenu chanoine régulier d'Osma en 1197 et qui a eu l'occasion tout simplement de suivre en bon chanoine son évêque de Castille, qui s'appelait Diègue, dans un long voyage à travers l'Occident. Et c'est au retour de ce voyage qu'ils ont rencontré à Montpellier des légats pontificaux qui, devant l'urgence de la situation, leur ont donné immédiatement une mission de prédication dans le comté de Toulouse. Et par conséquent, immédiatement, dès 1206, Saint-Dominique, inquiet de cet essor quand même énorme du catharisme, s'est mis à prêcher sur les terres des Trencavels et a eu même l'audace de se fixer dès 1207 à l'ouest de Carcassonne, en plein cœur du phénomène, à Prouille, puis à Fangeaux, deux localités qui se trouvent proches de Carcassonne. La règle évangélique à ce moment-là a été suivie par ceux qui ont commencé à se réunir très vite autour de Saint-Dominique. Prédication de l'Évangile, mendicité, itinérance par petits groupes, rigueur morale, telles ont été tout de suite les règles pratiques adoptées. Puis, évidemment, il a fallu s'organiser, parce que rapidement, cela a attiré du monde. Et ce qui est très caractéristique, c'est que c'est en fait l'ordre féminin qui a commencé le premier. En 1207, les Dames de Prouille ont constitué la première communauté féminine, autrement dit le point de départ des Dominicains. Pour aller plus loin, il faut attendre 1215. Là, Saint-Dominique organise à Toulouse même la branche masculine, l'ordre des frères prêcheurs, prêtres et savants, aussitôt reconnu par le pape Innocent III, qui avait parfaitement compris l'intérêt de cette initiative. Et là, véritablement, cet ordre qui se crée, c'est quand même étonnant. Voilà un ordre qui accepte bien l'existence du couvent, mais le couvent sert uniquement à la formation et à ce qu'on appellerait maintenant le ressourcement périodique. Pour le reste, le dominicain n'a que sa robe blanche à manteau noir et ses livres. Sur ces bases, de 1215 à 1221, Saint-Dominique a travaillé vraiment avec acharnement à l'expansion de l'ordre, dans un esprit d'amour des autres sur lequel il a beaucoup insisté. Et il y a une extension qui est rapide, puisqu'en ces quelques années, ce sont pas moins de 25 communautés qui se créent, ça va quand même vite, comme rythme. Et dans ces conditions, eh bien, il y a déjà un premier chapitre général tenu à Bologne en 1220, suivi d'un Sion l'année suivante. Et du vivant de Saint-Dominique, il y a déjà un maître général, en dessous le prieur provincial et en dessous encore le prieur conventuel. L'organisation est déjà très rigoureusement fixée. Dans ces conditions, l'élan est vraiment donné, et il est tellement donné qu'après la mort de Saint-Dominique, donc en 1221 à Bologne, parce qu'il n'est pas toujours resté en Languedoc comme on le croit, il a continué en Italie, eh bien, des confréries de laïcs se sont organisées dans le même esprit que les moines et les moniales, et sans qu'on sache très exactement dans quelle mesure cette initiative s'est inspirée ou non de ce que les franciscains étaient en train de faire au même moment. Voilà pour ce qui est de Saint-Dominique, qui est un personnage à la fois connu, mais sur lequel on n'a pas autant d'informations que sur Saint-François. Et après la mort de Saint-Dominique, eh bien, l'ordre a connu sans doute des tensions internes, voire des divergences qui allaient se renouveler d'ailleurs de siècle en siècle, de façon parfois différente. Mais il faut bien dire que le strict principe d'obéissance posé par Saint-Dominique a évité les éclatements à cet ordre malgré l'ampleur des tensions. L'essentiel d'ailleurs n'est pas dans ces tensions qui ont été parfois d'ailleurs fécondes, l'essentiel a consisté dans la rapide entrée en force des prêcheurs dans l'université. Car s'il est vrai que les prêcheurs avaient commencé par des réunions, par des rencontres contradictoires, par des prédications, ils ont immédiatement saisi l'utilité qu'il y avait à s'impliquer dans ces institutions toutes neuves au début du XIIIe siècle, qui étaient les universités en cours de création. Et en l'occurrence, les prêcheurs l'ont fait dans le Studium Artium, dans la faculté des arts, si vous voulez, ce qui correspondait en somme à notre enseignement secondaire sensiblement, en visant pour ce qui les concernait surtout le trivium littéraire, c'est-à-dire rhétorique, grammaire et logique. Et puis, d'un autre côté, bien sûr, ils ont visé aussi les studia generalia, c'est-à-dire le supérieur, en privilégiant là la philosophie et la théologie. Ce rôle dans l'université leur a permis de fournir des personnages d'un haut niveau intellectuel et de bénéficier aussi, ils sont à la fois cause et conséquence de la chose, du dynamisme universitaire qui caractérise les XIIIe et même XIVe siècles. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que cet ordre a remarquablement réussi. Et c'est resté vrai à travers l'histoire, soit dit en passant, puisque malgré des fléchissements, malgré des dérapages à certains moments de leur histoire que l'on sait, l'ordre est toujours resté important, et à l'heure actuelle encore, il compte environ 13 000 moines et moniales. En tout cas, pour en rester au Moyen-Âge, l'ordre a donné des hommes exceptionnels. J'en citerai évidemment quelques-uns. Il y a Albert le Grand, dont on se souvient plus beaucoup en France, si ce n'est à Paris, sous le nom déformé de la place Maubert. Albert le Grand, qui était un Allemand qui s'est partagé entre les universités de Paris et de Cologne, et qui, dans la période 1223-1280, fut un grand philosophe, un théologien, et peut-être de façon plus originale, un homme des sciences de la nature, puisque spécialiste de minéralogie, de botanique, de zoologie, il est apparu en somme, un des champions de l'étude des rapports, en fait, entre la science et la religion. Et puis, bien sûr, il faudrait citer forcément un personnage comme saint Thomas d'Aquin, évidemment, qui, entre 1248 et 1274, est devenu l'homme des grandes synthèses, l'homme de l'harmonie entre le christianisme et la philosophie grecque antique, l'homme aussi de l'humanisme chrétien. Je ne veux pas évidemment me lancer dans des choses sur saint Thomas, d'autant plus que je crois que vous en entendrez parler par ailleurs, et je ferai simplement observer qu'il y a déjà plus de 7 siècles que des penseurs dits nouveaux ne font que gloser les textes du docteur Angelicus, l'exemple de la pureté inaltérable. Et en effet, Thomas, au lieu d'être le fils du comte d'Aquin dans le royaume de Naples, Thomas s'est fait mendiant et un penseur qui est devenu un penseur à l'autorité universelle dans l'Église. Même si sa réflexion, extraordinairement dense, n'est pas d'un abord facile, même quand c'est traduit du latin. Aussi, dans tout cela, s'il est resté dans le droit fil de saint Dominique, avec son esprit d'équilibre et de sagesse, il n'est pas apparu comme saint Dominique, l'homme de l'amour ouvert à tous chaleureusement, et de ce fait, il n'a pas eu la même popularité, en somme, dans le grand public. Et même, d'ailleurs, saint Dominique allait être parfois un peu éclipsé dans le peuple de Dieu par un personnage qui allait être plus célèbre que lui, d'autant plus qu'il avait trouvé, sans le chercher, des personnages pour raconter longuement son histoire à lui. Il s'agit bien entendu de saint François d'Assise. Alors, je viens peut-être plus longuement sur les frères mineurs, ou c'est le titre officiel au Moyen-Âge, ou les cordeliers, ça c'est le surnom populaire, ou encore les franciscains. Et au départ, bien sûr, il y a saint François d'Assise. Alors tout le monde connaît, bien sûr, le petit pauvre, rayonnant de charité, et connaît l'adorateur de la crèche, et celui donc qui est né en Ombrie en 182. Vous savez peut-être que son nom de baptême n'a jamais été François, c'était Jean. Mais on pense que son père, le marchand très francophile Pierre Bardonne, et sa mère, qui était provençale, qui se prénommait Pica, l'ont sans doute appelé François et que l'appellation lui est restée. En grandissant, dans l'ambiance bien particulière qui était celle d'Assise, le riche jeune homme s'est mis à rêver de chevalerie. Vous savez à quel point, chez le bourgeois, il y avait des démangeaisons de gentilhomme, n'est-ce pas? Et il l'a rêvé surtout à un moment où Assise, par un véritable coup de force contre l'autorité impériale, s'est constitué en République guelfe en 1200. Mais les espérances ont été promptement déçues. En 1202, la défaite d'Assise contre sa rivale Pérouse a tout simplement valu à François un an de captivité. Ce n'était pas tout à fait ce qu'il avait entrevu dans une carrière militaire. Et par la suite même, après avoir été relâché, il a eu véritablement, autour de 1204, une crise de conscience fort importante. Alors, des phénomènes se sont produits qui ont fini de l'orienter. La voix entendue à Spolète en 1205, l'appel du crucifix dans l'église Saint-Damien à Assise en 1206, l'ont décidé à changer de vie et à opérer un changement radical, lui qui était pourtant jusque-là le représentant type de la jeunesse dorée d'Assise. En 1206, après une série de conflits fort aigus, fort violents avec son père, et François a quand même trouvé le soutien de sa mère, qui avait compris sa vocation, et aussi de l'évêque. Et dans ces conditions, saint François a renoncé façon publique et solennelle, à ses vêtements laïques et aux biens familiaux, dans une scène restée célèbre, où se sont manifestés le courroux de son père, et même de beaucoup de gens d'assises avec lui, et il s'est fait ermite, allant secourir les pauvres et les lépreux, pour un représentant de la jeunesse dorée, aller même secourir les lépreux, c'était complètement fou. Hein. Et cela, qui plus est, en priant et en mendiant. D'où véritablement un scandale complet à Assise. Il n'empêche que petit à petit, François était têtu, il a quand même commencé à faire comprendre son point de vue, tant et si bien que des personnes se sont mises à le rejoindre. Et en 1209, il y a déjà une première communauté qui est sous une forme encore très embryonnaire, mais qui est reconnue tout de même comme telle par Innocent III, qui lui donne à cette simple communauté le droit d'enseigner la pénitence et la morale. Exactement ce que souhaitait François. Pour aller plus loin dans l'organisation, eh bien, ce n'est pas François qui est parti en tête, mais une jeune noble d'Assise qui suivait son exemple, c'est Claire. En 1212, Claire, Sainte Claire, a reçu la vêture franciscaine qui apparaît à ce moment-là, c'est-à-dire la robe marron et la corde, et elle a organisé le nom est très caractéristique, les pauvres dames d'Assise, c'est-à-dire le point de départ des Clarisses. Pour l'ordre masculin, ça a été quelque peu plus long. Vous allez voir pourquoi ça a pris des cheminements assez curieux. François cherchait véritablement comment concilier des exigences mystiques, à certains égards très personnels, et en même temps la nécessité de faire face aux conséquences du mouvement qu'il avait en somme lancé. En 1215, Saint François a rencontré Saint Dominique au concile du Latran, et on pense que c'est à peu près à ce moment-là, au moment de cette rencontre, qu'ils ont eu l'idée d'entraîner les laïcs. En tous les cas, on voit graduellement des laïcs se mettent à vivre en fraternité dans l'esprit franciscain, étant entendu que le tiers-ordre ne va être complètement organisé qu'en 1221, c'est-à-dire le tiers-ordre réservé aux laïcs, vivant de l'esprit franciscain, mais vivant par ailleurs dans le monde laïque intégralement. En 1217, l'ordre continue à s'organiser en province, et vit cette fois-ci l'envoi de missionnaires hors d'Europe, ce qui va être une des grandes préoccupations, en effet, j'y reviendrai, des ordres mendiants. Tout ça était lourd et ne convenait pas tellement au tempérament de Saint François. En 1220, Saint François d'Assise a abandonné la direction de l'ordre à un ministre général et l'ordre a achevé de s'organiser au fond, et pour une part, marge de Saint-François, par des tâtonnements difficiles. En 1223 seulement, le pape a approuvé définitivement la règle de l'ordre. Saint-François, lui, était pendant ce temps-là retourné à ce qui lui convenait le mieux, c'est-à-dire à une vie d'ermite. Et c'est dans cette situation qu'il a été, à notre connaissance du moins, le premier saint stigmatisé, et ça s'est passé en 1224 sur le mont Alverne, sur les confins de la Toscane et de l'Ombrie, c'est tout à fait au nord de l'Ombrie. Et il est certain que cet événement qu'il a essayé au départ quelque peu de cacher et lui a valu immédiatement une réputation de sainteté. Il a, l'année d'après, Saint François, rédigé son célèbre Cantique du Soleil en 1225, qui est sans doute pour lui une œuvre majeure, et il devait mourir en 1226. Or, son intense amour de Dieu à travers les hommes, et aussi à travers en général toutes les merveilles de la création, a entraîné une canonisation absolument fulgurante en moins de 2 ans, ce qui même pour le Moyen-Âge constituait quand même un délai singulièrement rapide. Et la population, je le répète, elle le considérait déjà comme saint au moins au plus tard depuis la réception des stigmates de la crucifixion. Saint François a laissé un esprit franciscain et donc une postérité spirituelle. Saint François, c'est à la fois l'intense amour de Dieu et des hommes, une charité pleine, c'est la simplicité dans la pauvreté, l'humilité, il insistait beaucoup là-dessus, et la pénitence. C'est encore les dépouillements comme Jésus, Jésus de la crèche ou Jésus sur la croix. Et c'est enfin la joie de Noël et la joie du salut du Fils de Dieu, des fils de Dieu en général. Il n'était pas facile de suivre un saint François d'Assise, surtout dès lors que l'ordre se mettait à se propager très vite. Le ministre général qui avait été choisi, Élie Corton, et qui a assuré la direction, en gros, de 1221 à 1239, a été bientôt accusé d'adoucir la règle, de favoriser la construction d'églises, d'accepter des couvents classiques, d'encourager, pire encore, des études à la mode dominicaine. C'est là l'origine de conflits entre les spirituels et les conventuels. Les spirituels voulant garder dans toute sa rigueur toutes les exigences de l'esprit de saint François, les conventuels voulant une adaptation un peu plus proche de ce que faisaient les dominicains et qu'il leur paraissait leur offrir des bases plus commodes à leur action. Et il faut dire que saint François n'avait pas été toujours très net dans l'organisation de l'ordre, parce que pour lui, c'était quelque chose qui était jugé quand même, il faut bien le dire, assez secondaire. Heureusement, après lui, il y a eu un personnage d'envergure dans l'ordre qui a été saint Bonaventure. Et vous comprendrez qu'à Lyon, il est quand même décent de lui faire particulièrement sa place. Saint Bonaventure a été le ministre général de l'ordre de 1257 à 1274 et il est resté célèbre pour avoir tenté de faire admettre dans l'ordre l'existence d'une via media, d'une voie moyenne entre les deux tendances. Et ce n'était vraiment pas facile à faire. Saint Bonaventure, ce n'était pas son nom, il s'appelait Jean Fidenza. Et il était né en 1217 près d'Orvieto. Mais son orientation vers Saint François avait été précoce, puisqu'il a été guéri miraculeusement par Saint François peu après la mort de ce dernier en 1230. Et reconnaissant, ses parents l'ont donc confié à des franciscains qui ont envoyé Jean Fidenza à l'université de Paris en 1235, et il y a fait son chemin puisqu'il y est devenu professeur. Mais bientôt, Saint Bonaventure, puisque c'est le surnom, Bonaventure est le surnom qu'on lui avait donné les Italiens, a été appelé à la tête de l'ordre pour tenter, ce qui paraissait déjà presque une mission impossible, d'en refaire l'unité. Eh bien, ce qu'a fait Saint Bonaventure, ça a été de séparer les couvents d'études et les couvents de pauvreté. Ça a été aussi de confier la gestion des couvents à des laïcs, pour éviter là aussi des interférences fâcheuses. Ça a été encore de parcourir inlassablement toutes les maisons de l'ordre, il y a passé son existence. Ça a été encore de proposer, pour dépasser les débats, ses méditations sur le Christ et sur la Vierge Marie. Et au bout de cette activité, Saint Bonaventure, par la demande du pape, s'est retrouvé l'un des organisateurs, sinon le principal, organisateur du Concile de Lyon de 1274. Et dans ce concile, la marque de l'esprit franciscain, si l'on est ordonnandien en général, est véritablement très forte. Et la présence de Saint Bonaventure y est évidemment pour quelque chose. Parce que qu'est-ce qui se passe d'important dans ce concile de Lyon ? Ce qui se passe sans doute de plus important dans le deuxième concile de Lyon, suite 1274, c'est que Saint Bonaventure a fait triompher les ordres mendiants dans ce concile et avec eux l'idéal missionnaire, la relance du grand mouvement missionnaire. Il était évident, et il n'y avait pas à y revenir, que pendant quelques siècles, les croisades avaient été nécessaires. Il était bon maintenant de revenir à l'idéal missionnaire. Et en somme, Saint Bonaventure a proposé aux ordres mendiants et à l'Église tout entière de tendre toute leur énergie dans cette direction. Après la disparition de Saint Bonaventure, qui est mort donc à Lyon à la fin du concile, sans qu'il y ait de rapport de cause à effet, ce qui s'est produit, c'est qu'après sa mort, le conflit interne chez les franciscains a quand même rebondi. Mais il ne faut pas imaginer que ça a été une cause de paralysie. L'élan est resté. Et au fond, on est revenu après à l'idée de Saint Bonaventure, mais à la transposant quelque peu. Lui avait fait déjà des séparations, on l'a vu, entre les types de couvents. Eh bien, tout simplement, on en est venu à l'idée d'aller un tout petit peu plus loin dans la même voie. On en est venu à la création de branches de l'ordre. Il y a eu en effet les frères mineurs, qui ont gardé dans la toute absolue rigueur ce qu'avait souhaité Saint François. Il y a eu les conventuels qui ont pris la voie plus modérée, tout en restant bien entendu dans la famille franciscaine, et plus tard, encore dans un style légèrement différent, les capucins sont apparus à partir de 1528. Et il faut croire que les tensions ont été d'une grande fécondité, parce que l'ordre tout entier, avec ses différentes branches, n'a cessé de prospérer. Et faut-il rappeler que de nos jours, il compte dans les 60 000 membres, et c'est-à-dire trois fois l'effectif des bénédictins. C'est impressionnant. Alors, ceci amène évidemment à dresser un bilan de cette action. Et ce que les ordres mendiants, et tout spécialement les franciscains, ont laissé, ça a été vraiment un idéal du service des autres dans l'humilité et dans la discrétion. Une formule qui allait faire son chemin à travers les siècles. C'est aussi, bien sûr, le souci d'évangélisation dans tous les continents et dans tous les types de villes. C'est encore la glorification de la nature, mais pas de la nature comme ça déifiée par elle-même, la glorification de la nature en tant qu'apparition de la création, de l'œuvre de la création, et par conséquent comme renvoyant à l'œuvre du Créateur. C'est encore, bien sûr, la joie de Noël qui a été particulièrement développée par les franciscains. C'est encore le rôle accru donné aux laïcs dans la chrétienté. Ce n'était pas une pure innovation, mais ce qui était nouveau, c'est que ces laïcs, désormais, s'inspiraient d'une spiritualité, mais n'étaient pas pour autant tenus d'essayer de vivre le plus près possible, comme des clercs ou comme des moines, selon ce que la chose avait été proposée par les ordres précédents. Là, il y a une nouveauté, c'est qu'ils ont leur rythme de vie laïque, c'est simplement leur spiritualité, les mobiles de leurs actions qui doivent changer. Et il est bien certain que cela a passé d'autant plus facilement que la population a pris assez vite l'habitude de choisir des confesseurs qui ont été des véritables directeurs de conscience parmi les franciscains ou parmi les dominicains. C'est pourquoi il y a eu véritablement une très forte influence de ces mendiants, avec une grande variation de leur impact tout de même à travers les siècles. Cela dit, il y a peut-être, après avoir brossé ce panorama général, quelques points peut-être qui mériteraient de venir en complément de ce que j'ai dit. Et pour ce, je prends les choses un petit peu à rebours de ce que j'ai présenté, pour aller peut-être au-devant de certaines questions que vous vous posez, je pense qu'il y a quelques précisions qui sont nécessaires. S'agissant de saint François d'Assise, je vous rappelle qu'il avait pris très vite l'habitude de se fixer dans un petit ermitage que vous trouverez dans les ouvrages, tantôt sous le surnom que lui avaient donné les gens du cru, qui était donc la portion culte, tantôt sous l'appellation que lui avait donné saint François en raison de l'invocation auquel il tenait, qui était de Notre-Dame des Anges. Donc je vous rappelle ceci déjà pour faciliter vos lectures. Je vous rappelle aussi qu'il y a toute une abondante littérature qui existe sur saint François d'Assise, déjà de son temps, pour signaler ses actions. Et notamment, ce qui a beaucoup frappé les gens de l'époque, son véritable amour, sa passion pour toute la création, son exaltation des frères les oiseaux, auxquels il donne de l'importance, parce que tout est symbole au Moyen-Âge, parce qu'il s'élève vers Dieu. Et également les agneaux, pas besoin de chercher très loin évidemment la symbolique. Également l'exaltation de l'eau, parce que ça renvoie au baptême, bien entendu, ou encore l'exaltation du bois qui renvoie à la croix. Enfin, vous voyez, il y a véritablement une exaltation de la nature, mais dans la mesure où tout est véritablement symbolique. Je précise aussi au passage que, comme c'est généralement le cas dans les ordres mendiants, il y a eu une très grande dévotion à Marie et que saint François, pour sa part, a pris Marie comme patronne de son ordre. C'est aussi un trait à noter, ça va bien dans le sens de tout ce mouvement très fort de la dévotion mariale des XIIe et XIIIe siècles. Et il y a évidemment quantité de choses qu'on pourrait évoquer. Je rappelle simplement que la vie du saint nous a été développée surtout par un personnage que tout le monde connaît, mais davantage comme auteur musical que comme auteur de la vie de saint François en général. Il s'agit du franciscain Thomas de Celano, qui a été le contemporain de saint François d'Assise. Voilà pour ce qui le concerne. Je rappellerai aussi qu'en ce qui concerne l'ordre franciscain en général, le souci de la mission sur tous les continents a été véritablement une constante, et il faut faire les rapprochements avec les impacts que ça a pu avoir. Et étant donné que nous sommes encore pas trop loin de l'année 1992, et je ferai la relation avec ce qui s'est passé en 1492. Mais de son temps, il a été fort critiqué. Et ça n'a pas empêché, évidemment, a fortiori, les franciscains de s'occuper des plus petits quant à leurs origines. Et cela explique parfois bien des choses. Exemple, passons à une certaine Jeanne d'Arc. Comment s'expliquer qu'elle ait eu un encouragement si vif à la fois et en même temps au patriotisme français? Alors, je veux bien faire la part de l'état d'esprit dans la châtellenie de Vaucouleurs, je veux bien faire la part de l'enseignement de ses parents, je veux bien faire la part du rôle de l'honnête homme qui était le curé de son village. Il n'en demeure pas moins vrai que Don Rémy, ça se trouve près de Neuchâteau. Et à Neuchâteau, il y avait un couvent de frères mineurs et un couvent de Clarisses. Et on sait que leur action a été très forte dans les deux directions que je viens d'indiquer. En plus, la région a connu directement ou de façon à peine indirecte en tout cas, la prédication d'un franciscain célèbre en son temps, frère Richard, en faveur du roi en 1428. Frère Richard que Jeanne allait retrouver plus tard dans son existence triomphante. Ce goût pour la mystique n'empêche pas du tout les franciscains d'aller dans des directions très différentes et ne les empêche pas non plus d'agir extrêmement concrètement. Et je rappellerai entre autres que frère Bernardin de Feltre a organisé dans toute l'Italie à partir de la fin du XVe siècle les fameux monts de piété pour le prêt sans intérêt afin de permettre à beaucoup d'échapper aux griffes des usuriers, ça existe. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait évoquer en ce qui les concerne. Pour ce qui concerne Saint-Dominique et les Dominicains, alors là, il y a peut-être quelques indications que je pourrais pousser également. Pour les franciscains, il y a d'énormes publications qui sont faites tout simplement par les éditions franciscaines, qui représentent un fort rythme de publications. Pour le fondateur des Dominicains, et là, je rappellerai au passage qu'il faut partir des travaux du père Vicaire, l'auteur de l'histoire de Saint-Dominique, qui a vraiment dominé une masse énorme de documents, et qui a ensuite, de cet ouvrage paru en 1757, donné un complément sous la forme de Dominique et ses prêcheurs, paru à Fribourg en 1977. Sur les Dominicains, évidemment, on attendrait, bien sûr, que je parle beaucoup de la prédication. Le problème, c'est que justement, encore eût-il fallu que ces prédications soient conservées en archives. Et c'est bien là où le bât blesse. Là-dessus, cependant, on peut trouver des renseignements dans une collection qui est quand même extrêmement intéressante, qui est celle des cahiers de Fangeau, qui est publiée très régulièrement depuis, je ne sais plus combien maintenant, au moins une vingtaine d'années largement, et qui donne, à partir de ce qui se passe en Languedoc, souvent beaucoup de renseignements qui le débordent très largement. À propos de cette action des Dominicains, je crois qu'il est important peut-être de ne pas oublier ce qu'a été la position de l'Église vis-à-vis des hérétiques. Je crois que ça permet d'éclairer un peu ce qu'a été l'action des Dominicains qui se sont trouvés engagés à leur tour dans cette action-là. Lorsqu'on se place au début du XIIIe siècle, on a nettement l'impression que l'attitude de l'Église est fixée déjà depuis longtemps là-dessus. Face aux hérétiques, l'Église estime qu'il faut d'abord prêcher ou discuter, la première des choses. Ensuite, si ça ne suffit pas, deuxième stade, exhorter. Ensuite, si ça ne suffit pas, excommunier l'irréductible. Et seulement si ça ne suffit pas, punir. Voilà, en somme, ce qu'était déjà de tradition dans l'Église. De surcroît, les évêques, eux, pour leur part, dans la mesure où ils avaient été les premiers engagés dans l'affaire, se sont vus enjoints par le pape, même par Innocent III, d'enseigner la saine doctrine et de lutter contre les erreurs, et aussi d'enseigner les vertus et de lutter contre les vices. On est dans cet état d'esprit, souvent repris, vous le savez, jusque dans les thèmes iconographiques. Seulement, voilà, ce qui explique que l'action des évêques était limitée, c'est que trop souvent, ils restaient encore dans leur cathédrale. Et justement, Saint-Dominique, pour sa part, a voulu changer radicalement la situation. Il a envisagé, non pas seulement de faire ce que faisaient déjà les cisterciens et d'autres moines, des déplacements, des circulations. Lui, il a envisagé purement et simplement un quadrillage de chaque diocèse dont il a montré l'exemple en Languedoc. Puis, il a élargi sa méthode et sa vision à l'ensemble de la chrétienté en obtenant quantité de bulles pontificales allant dans ce sens pour les différents pays européens en attendant de déborder l'Europe. Au passage, cela vous montre que Saint-Dominique, c'est pas du tout Saint-François. Saint-Dominique, lui, il est préoccupé, nous dirions de nos jours, d'une certaine efficacité, et par conséquent, il estime que pour faire avancer ce qu'il veut faire, il faut faire, on pardonnera l'expression, donner à plein la machine, l'administration pontificale. Et il ne s'en prive pas. Alors que Saint-François, dans son esprit d'humilité, lui, non, ce n'était pas une chose envisageable. Il y a des différences d'état d'esprit qui sont d'ailleurs l'une des fécondités de l'Église. Et voilà, par conséquent, quelques points, si vous voulez, qui mériteraient des compléments. J'ajouterai aussi que, du point de vue bibliographique, on peut trouver des ouvrages qui ne manquent pas d'intérêt. Je pense à celui de Desbonnets et Voreux qui s'appelle « Saint-François d'Assise, document », qui était paru en 1968. Ou bien encore à l'ouvrage qui est de portée plus générale que le titre ne semble, « Les ordres mendiants et la ville en Italie centrale », paru dans les mélanges de l'École française de Rome en 1977. Rassurez-vous, je ne veux pas vous infliger des masses bibliographiques, c'est totalement indigeste et soporifique. Je me contenterai simplement de dire, vous, à ceux qui souhaiteraient creuser telle ou telle question touchant les ordres monastiques, que nous avons la chance, dans la région Rhône-Alpes, de disposer d'un centre qui centralise absolument toute l'information là-dessus et qui comporte une bibliothèque de recherche et qui n'est pas sans intérêt non plus. Ça s'appelle le CERCOR. J'ai pas d'action, c'est une association simple. Le centre d'études sur les congrégations, le centre européen de recherche sur les congrégations et ordres religieux. Voilà. Le CERCOR, c'est un sigle qui se trouve à la Maison Rhône-Alpes des sciences de l'homme, 35 rue du 11 novembre à Saint-Étienne, et qui peut donner des renseignements extrêmement poussés pour ceux qui voudraient pousser sur des points particuliers ou qui, pourquoi pas, ça arrive à des personnes fort bien, seraient saisies de quelques démons de la recherche. Je vous remercie de m'avoir supporté malgré ma voix épouvantable. Et dans la mesure du possible, j'essayerai de répondre à vos questions, si vous en avez. Je sais que M. l'abbé Portail aurait préféré que je puisse pousser longuement sur les prédications, mais alors là, franchement, du point de vue documentaire, là, ça frise la mission impossible. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est que la différence, me semble-t-il, de la prédication des ordres mendiants par rapport à ce que l'on entendait généralement comme prédication du fait des séculiers, c'est qu'au lieu de rebattre ni peu ni trop des sermons type préparés, ça existait déjà, qu'on appelait les exemplats, ils ont essayé justement d'avoir des prédications originales et surtout de ne pas hésiter à se lancer soit dans des réunions contradictoires, sans chercher nécessairement à sanctionner d'entrée de jeu l'adversaire, ça a été donc le cas des prêcheurs, soit de commencer de prêcher par l'exemple avant de passer à la prédication, ce qui a été plutôt la tendance des frères mineurs. Bon, je n'avais pas osé vous entraîner dans des aspects extra-religieux, mais puisque vous m'y invitez, je m'exécute. Effectivement, si il y a une mutation de cette ampleur-là qui se produit à ce moment-là, c'est tout simplement parce que les villes ont repris une envergure considérable. Il faut vous représenter que depuis le déclin inexorable que les villes avaient connues pendant le Bas-Empire romain déjà. Ça avait déjà bien commencé à ce moment-là. Et a fortiori, pendant le Haut Moyen-Âge, elles n'étaient plus devenues que des éléments presque marginaux et en tous les cas bien secondaires. En effet, certaines villes avaient été carrément, des petites en général, avaient été abandonnées. La plupart des anciennes villes étaient devenues quelque chose comme des petits noyaux flottant dans un ensemble beaucoup trop vaste. Des petits noyaux autour d'églises, sans plus. Et puis, il y a eu ce phénomène énorme qui s'enclenche quelque part aux alentours de l'an 1000. Hein, alors, 50 ans avant, 50 ans après, ne chipotons pas là-dessus. Et il y a eu un renversement de situation qui est dû à tout un tas de raisons, notamment le retour à la sécurité qui est pour beaucoup, peut-être des changements climatiques. Il y a toute une série de phénomènes aux conséquences, mais qui sont sensiblement concomitants. Et le résultat, c'est que la vie rurale non seulement a repris de la vigueur, c'était l'élément moteur à l'époque, mais les villes aussi sont graduellement reparties. Si l'on accepte le cas des villes italiennes qui ont démarré un peu plus tôt, parce que tout simplement elles avaient la chance d'être en contact plus proche avec l'Empire byzantin, eh bien, dans l'ensemble, le démarrage urbain est quand même quelque chose qui se produit pendant le XIIe siècle. En gros, c'est un moment où l'on a des quantités de création de villes, éventuellement fin 11e, et en tous les cas, le 12e siècle. Et donc, ces villes se sont mises à connaître un développement absolument fulgurant. Et dans ces conditions, très naturellement, il s'est posé deux questions. D'abord, ces habitants des villes qui étaient souvent obligés, pour des raisons professionnelles, d'être plus instruits, de ne pas avoir trop de discordance entre leurs connaissances générales et professionnelles d'une part et leurs connaissances religieuses d'autre part. Et ils ont estimé que de ce qu'ils entendaient des cisterciens ou des autres ne leur suffisait pas. Et d'autre part, donc ils ont cherché autre chose. Et puis d'autre part, c'est bien en ville tout particulièrement qu'avec la montée vraiment très rapide en puissance de ces villes, s'est posée la question de l'argent. Et de l'argent dans ses rapports avec l'Évangile, et Pierre Valdo, le marchand de Saint-Mizier, en est un bon représentant ici. Donc, voilà, si vous voulez, dans quelle ambiance, je dirais, à la fois économique et intellectuelle, s'est produit la naissance des ordres mendiants. Cela dit, il est vrai que leur création pouvait soulever toutes sortes d'autres difficultés. Il pouvait y avoir, en effet, une difficulté d'ordre politique. Ce n'était pas simple, en effet, pour les ordres religieux de se situer par rapport aux autorités du temps, c'est-à-dire à l'empereur, à tel ou tel roi ou à tel ou tel prince territorial. Il n'était pas très commode, si vous voulez, de rester en dehors, même pour les moines. L'ordre de Cluny, par exemple, avait été créé dans une situation qui était celle des conditions de la naissance du Saint-Empire, et l'ordre de Cluny a été longtemps très favorable à l'empereur, ce qui l'a amené parfois dans des situations un brin délicates avec le roi de France, qui, comme on le sait, prétendait être empereur en son royaume. Ce n'était pas simple. Les cisterciens, naturellement, vous le savez, sont posés en réaction contre les Clunisiens. Ils l'ont assez claironné sur tous les toits. Donc, se posant en réaction contre eux, les cisterciens sont partis à fond comme guelfes, c'est-à-dire comme pro-pontificaux et anti-impériaux. Situation qui s'est révélée assez inconfortable dans les pays du Saint-Empire, notamment, ou qui suivaient le Saint-Empire. Donc, si vous voulez, il y avait une question de prise de position qui n'était pas très facile à faire. Et les ordres mendiants ont essayé justement, dans la mesure du possible, pendant longtemps, d'éviter de s'engager. Oui, ils n'ont pas fini par y arriver, mais enfin, ils ont essayé de l'éviter et en adoptant, si vous voulez, soit une prédication de type très spiritualisé pour les uns, soit en développant une spiritualité de l'action concrète auprès des pauvres pour les autres. Mais si vous voulez, il y avait latente une question un petit peu délicate et une question qui n'a pas toujours pu être évitée. J'ai fait allusion à propos de Jeanne d'Arc à la prise de position très nette là de franciscains donc en faveur de la France. Vous vous doutez des réactions que ça pouvait provoquer en Angleterre. Tout ça n'est pas simple du tout et il est certain qu'il faut avoir le détachement d'un Saint-François pour se sentir assez à l'écart, finalement, de ces questions. Mais, je ne sais pas, c'est pour vous donner une petite touche, si vous voulez, un petit peu des choses. Je ne vais pas peut-être vous infliger un panorama complet de l'Europe aux alentours de 1200, mais simplement peut-être de quelques éléments qui peuvent éclairer les conditions de la jeunesse des ordres mendiants. C'était délicat pour eux à la fois de se rattacher à la papauté comme l'avaient fait les ordres ruraux antérieurement et puis en même temps, jusqu'à un certain point, de prendre quand même certaines distances dans l'ordre temporel. D'autres questions ? D'abord, il y a une chose qui est très claire, c'est que leur action est partie à fond, on l'a vu, au XIIIe siècle. On est quand même obligé de constater que les hérésies auxquelles j'ai fait allusion antérieurement ont disparu au XIVe. Et ça serait quand même un peu simpliste, je pense, de dire que parce qu'il y a eu dans quelques cas d'exécution par le feu, que automatiquement toutes les hérésies sont rentrées sous terre. Et c'est sans doute pas la raison principale. La raison principale, c'est que, justement, étant allé directement au cœur de ce qu'avaient été les motifs profonds des hérétiques, à partir du moment où les ordres mendiants montraient qu'il y avait des solutions à l'intérieur de l'Église, pourquoi se lancer dans la voie aventureuse de l'hérésie ? Et de ce point de vue-là, il me semble que leur action a été très bénéfique. Et en revanche, ce qui s'est produit, c'est que, comme ça arrive dans l'histoire de beaucoup d'ordres, il y a eu des phases où l'action s'est relâchée. Et c'est dans la mesure où il y a eu à la fois l'impact de l'action qu'ils avaient menée et des relâchements de ce qu'ils faisaient. Ce problème faisait des choses très graves, c'était simplement que leur action s'était attiédie. Bon. Et il en est résulté tout simplement de nouvelles hérésies. Et je fais pas du paradoxe. Il est résulté des nouvelles hérésies, pourquoi ? D'abord parce qu'il n'y a pas d'hérésie quand la foi est tiède. La foi est tiède, dès que ça passe, qu'il y a un mouvement ou un autre, zéro. Bon. Donc là, en fait, ils avaient lancé véritablement un effort très grand de spiritualité personnelle, ce que l'on allait appeler à la fin du Moyen-Âge la dévotion moderne. Et par conséquent, les exigences se sont développées. Et du même coup, bien, plus les exigences se développent, plus il peut y avoir des gens qui se trouvent impatients au sein de l'Église parce que ça ne va pas aussi vite qu'ils voudraient. Et par conséquent, ça aussi, c'est, ils n'avaient pas prévu, sans doute, résultat, des chocs en retour, si vous le voulez, de leur action. Et puis, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, les conditions ont été telles qu'ils n'ont pas pu réagir, soit peut-être parce que parfois ils s'étaient attiédis, soit aussi tout simplement parce que la papauté s'est trouvée, comme on sait, entre mi-15e et mi-16e siècle, dans une crise absolument épouvantable. Et ce n'est pas parce qu'on magnifie dans l'histoire de l'art les papes de la Renaissance qu'il ne faut pas voir le peu qu'ils valaient sur le plan spirituel. Et par conséquent, l'ensemble conjugué a fait que le phénomène est reparti et là a pris de l'ampleur et n'a pas été coupé, tout simplement parce que la réaction de l'Église a été beaucoup plus tardive et n'est intervenue qu'au moment du Concile de Trente. Ça a été trop lent. Alors que là, dans la phase que j'évoquais au départ des mendiants, la réaction, somme toute, a été rapide. Quand on pense que l'organisation de l'Église cathare se fait dans la seconde moitié du XIIe siècle. Bon, ben, la réaction est quand même de 8. Alors que, dans l'autre cas, ça a beaucoup traîné. Ce qui fait que ça a été difficile, après, de reprendre la situation. Et là, il y a eu, bon, c'est la contre-forme, etc. Vous me posez une question plus qu'embarrassante. Hein. C'est bien difficile de répondre à cette question-là, parce que, en fait, si je répondais dans un esprit purement juridique, il faudrait en effet que je regarde par rapport à la rédaction de la règle quel a été le comportement des ordres. Bien. Mais c'est difficile parce que, d'une part, on peut dire que jusqu'à un certain point, la règle est déjà pas différente, le mot serait trop fort, et un petit peu adoucie par rapport à saint François lui-même, et puis qu'il y a eu des modifications aussi. Hein. Donc, ce n'est pas si simple que ça de répondre à une question de ce genre. Non, ce que je veux dire, c'est que sans tomber dans un juridisme bien étroit, et je peux répondre à la question en disant qu'au fond, on a des branches qui se sont organisées en participant du même esprit de saint François, mais en étant amenées à prendre simplement des modalités un petit peu différentes. À un moment donné, les croisades ont obéi à une logique absolument inévitable qui est celle du XIe siècle et qui a eu des prolongements par la suite. Et il faut quand même se mettre dans l'esprit que depuis le début du VIIIe siècle, l'Occident était l'objet d'une agression constante de l'islam. Et qu'il avait été assez difficile de lui barrer la route, ce qui avait été fait, comme on sait, par les Carolingiens. Puis, comme il y avait des tentatives d'incursion à nouveau, il s'est développé à l'initiative principalement des Italiens au départ, puisqu'ils étaient d'ailleurs les premiers visés, une logique de contre-attaque, qui n'était pas quelque chose de prémédité au départ, mais il fallait se faire de l'air pour éviter que, notamment dans la mer Tyrrhénienne, les Arabes qui avaient appris aussi à utiliser des bateaux ne fassent des débarquements périodiques, ce qu'ils ne se privaient pas de faire. Donc, tous les ports de Gênes jusqu'à Amalfi se sont graduellement organisés pour faire le ménage et pour dégager un petit peu tout ça. Et puis, en même temps, il faut vous représenter que pendant le XIe siècle, l'Espagne aussi cherche à se dégager. On est dans la logique de la reconquête. Donc, il y a, d'une façon générale, sur terre, sur mer, des mouvements qui vont tous dans le sens d'un dégagement. En plus, on est dans la période où l'islam passe des Arabes aux Turcs. Je ne ferai pas spécialement l'apologie de la gentillesse des conquérants arabes, ça serait une triste plaisanterie, mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que le temps passant, les Arabes avaient quand même toléré, plus en les méprisant, qu'il y ait des pèlerins chrétiens qui aillent en Terre Sainte, comme ça se faisait du temps de l'Empire byzantin, du temps où Byzance contrôlait les lieux saints. Et avec l'arrivée des Turcs, qui étaient, comme vous le savez, relativement nouveaux convertis, là, les positions ont été beaucoup plus radicales. Et le résultat, c'est que dans le cours du XIe siècle, les pèlerins qui voulaient avoir quelques chances de revenir ont dû non seulement se grouper, mais faire le voyage armé. Et par conséquent, petit à petit, vous voyez les deux phénomènes se conjuguant, on en est venu très logiquement au phénomène de la croisade que le pape Urbain II lui-même a proposé, sans se douter du succès d'ailleurs, qu'il a proposé en pensant qu'après tout, tant qu'à faire, ça serait utile, ça permettrait peut-être de refaire l'unité avec Byzance, parce qu'on sait bien sur le plan humain, c'est toujours plus facile de faire l'unité contre quelqu'un que pour quelque chose. D'une part, c'était une vue de pur bon sens, et d'autre part aussi, en se disant que... n'oubliez pas qu'on était juste après le schisme de 1054, hein, c'était tout frais, donc il s'agissait d'essayer de refermer le schisme tout de suite si c'était possible. Et puis aussi en se disant qu'après tout, la société occidentale était bien violente, toutes les institutions de paix faisaient ce qu'elles pouvaient, ça n'endiguait pas tout, qu'au moins, puisqu'on ne pouvait pas la contenir, au moins que la violence servait à quelque chose, c'est-à-dire à rouvrir la voie des lieux saints. Bon, donc, il y a eu une logique des croisades qui a enthousiasmé les foules à la fin du XIe siècle et qui a continué à déchaîner l'enthousiasme pendant le XIIe. C'est évident qu'à partir du moment où on a commencé à mesurer en Occident le poids que représentait la défense des États latins d'Orient, à partir du moment aussi où, par la faute, il faut bien le dire, des Templiers, il y a eu une grave défaite à la fin du XIIe siècle, la défaite ratine, qui a amené un effondrement de, pas complet, mais très large, des États latins de Terre Sainte, l'enthousiasme a commencé à baisser. Ajoutez-y en prime le détournement de la quatrième croisade, qui a eu quand même cette originalité d'aller en découdre avec les villes chrétiennes, ce qui était quand même plutôt original. Bref, l'esprit de croisade a commencé à décliner singulièrement. Et vous savez assez comment, je pourrais dire, Saint-Louis s'est fait recevoir lorsqu'il a commencé à parler croisade. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas déclenché l'enthousiasme. Sa mère, qu'on ne peut quand même pas suspecter de manquer de piété, ça sera un comble. Sa mère était carrément hostile. Et puis, et les seigneurs de son conseil, donc. Relisez donc Simon de Joinville pour voir sa joie ineffable. Bon, donc, dans ces conditions, ça baissait singulièrement. Et ça baissait d'autant plus que, qu'est-ce que vous voulez, les États latins de Terre Sainte allaient les sauver. Et il y avait de plus en plus d'Italiens qui avaient colporté leur règlement de compte entre cités, qui se battaient entre eux au lieu d'essayer de défendre les États latins de Terre Sainte. Ça devenait de plus en plus intenable. Bref, dans ces conditions, on comprend que les ordres mendiants, et puis et franciscains en tête, mais dominicains aussi d'ailleurs, et puis dire, écoutez, les croisades ont fait leur temps, il faut revenir maintenant aux missions. Et il faut y revenir parce que, les deux fondateurs d'ordre estimaient que l'on pouvait se lancer dans des missions sur les différents continents connus. Donc on visait essentiellement, se disant, à la fois l'Asie et l'Afrique. L'Asie, avec d'ailleurs des espoirs très légitimes, n'oubliez pas que c'était le temps de l'Empire mongol, et que cet Empire mongol aurait très bien pu basculer dans le christianisme, il s'en est fallu très peu, c'était fort jouable, donc, comme on dirait maintenant. Et en ce qui concerne l'Afrique, les fondateurs d'ordre pensaient même arriver à convertir les musulmans, en tous les cas, au moins les païens. Donc, dans ces conditions, ils ont proposé cela, et il faut bien dire que, comme les papes, autant que je me souvienne, de la seconde moitié du XIIIe siècle, sortent en partie aussi des ordres mendiants, ça a facilité aussi la progression du phénomène, et c'est ainsi qu'on est reparti, en somme, sur un idéal missionnaire à la fin du XIIIe siècle, avec le plein appui de la papauté, et en créant d'ailleurs des contre-coups assez inattendus. C'est ainsi, par exemple, que du fait de ce changement de cap qui a été décidé au compte de 1274, alors il est certain que dans tout ça, il y a eu une conséquence néfaste, si vous voulez, c'est que du même coup, la Terre Sainte a été perdue, ça c'est certain, et que du même coup, bien... ce premier bastion chrétien étant tombé, les Turcs se sont lancés sur le suivant, qui a été l'Empire de Byzance, qui est tombé à son tour au milieu du XVe siècle, et qu'après, ils ont essayé, dans la foulée, de conquérir sur l'Occident. Là, ça a été sévère sur les XVIe-XVIIe siècles.